Vous écoutez Radio France Internationale, il est 22h30 à Nairobi, une heure de moins à Paris et à La Haye.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Kouadio.
Bonsoir à toutes et à tous. Au Kenya, face à la contestation, le président recule. William Ruto retire le projet de budget à l'origine des manifestations d'hier. Manifestations violemment réprimées, bilan au moins 23 morts. Aujourd'hui, la Commission kenyane des droits humains demande que les responsables rendent des comptes. Nous parlerons aussi de l'ancien patron de la police islamique de Tombouctou, Abdulaziz Al-Hassan, reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Verdict prononcé en fin de matinée aujourd'hui à La Haye, la peine sera connue ultérieurement. Et puis une base de la SADC, la force régionale déployée en République démocratique du Congo, visée par une attaque à l'arme lourde. Bilan, au moins 2 soldats sud-africains tués. C'est l'armée sud-africaine qui l'annonce ce mercredi dans un communiqué. Au total, 5 soldats sud-africains ont été tués depuis le début du déploiement de cette force régionale. Au Kenya, la loi de finances de 2024 a donc finalement été retirée. Le président William Ruto l'a lui-même annoncé cet après-midi dans une allocution votée hier par les parlementaires. Elle devait encore être signée par le chef de l'État depuis plus de 10 jours. Cette loi qui prévoit de nouvelles taxes fait l'objet d'une forte contestation. Au moins 23 personnes sont mortes hier dans la répression de manifestations selon des organisations de défense des droits de l'homme. Cet après-midi, William Ruto a donc décidé et cédé à la pression de la rue. À Nairobi, le récit de Gaël Lalex.
C'est une grande victoire pour les manifestants qui demandaient un retrait total de la loi de finances. Elle avait déjà été bien amendée par les parlementaires la semaine dernière, mais ça n'avait pas suffi à satisfaire la rue. William Ruto joue donc la carte de l'apaisement. « Je gouverne un peuple et le peuple a parlé », a-t-il expliqué. Il promet maintenant un dialogue avec les jeunes, mais aussi les forces vives de la nation, comme la société civile, les organisations religieuses et les syndicats. Cette annonce est accueillie avec circonspection. C'est en tout cas ce qui transparaît sur les réseaux sociaux, principal forum des manifestants. Certains redoutent que le diable ne se cache dans les détails. En ne signant pas la loi, le président la renvoie au Parlement qui doit acter son retrait et certains redoutent un coup de bluff de William Ruto. D'autres trouvent que ce geste d'apaisement arrive un peu tard, au lendemain d'une répression policière sanglante. Hier, nous étions des criminels et aujourd'hui les fils de la nation, ironise un manifestant joint par téléphone. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Et aujourd'hui, la Commission kenyane des droits de l'homme, par la voix de son directeur, demande aux responsables de ces violences de rendre des comptes. Abdulaziz Al-Hassan, reconnu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre par la Cour pénale internationale. L'ex-milicien d'Ansar Dine répondait de crimes commis en 2012 et 2013 lors de l'occupation du Nord-Mali par les groupes djihadistes Acmi et Ansar Dine. Dans le système mis en place par les djihadistes, Abdulaziz Al-Hassan était le chef de la police islamique à Tombouctou. Les précisions de Stéphanie Maupin.
Un chef de la police zélé qui faisait appliquer les sentences prononcées par le tribunal islamique à l'encontre de celles qui ne portaient pas le voile ou des couples adultères, à l'encontre de tous ceux qui ne respectaient pas les lois du nouveau pouvoir à Tombouctou, la charia version Ansar Dine et Acmi. Selon les témoignages retenus par les juges, Abdulaziz Al-Hassan flagellait ses victimes ou ordonnait qu'elles soient fouettées. Certaines femmes ont été enfermées dans un distributeur habillé proche du siège de la banque qui était devenu son quartier général. Abdulaziz Al-Hassan a donc été reconnu coupable de persécution pour des motifs religieux, coupable aussi de mutilation et de torture. Les juges l'ont néanmoins acquitté de viol, d'esclavage sexuel et de mariage forcé. Les magistrats ne nient pas l'existence de tels actes, mais en substance, ils estiment qu'il s'agissait de crimes de droit commun et qu'ils n'ont pas été commis dans le cadre politique des crimes contre l'humanité. Sur la forme, la lecture du jugement était lente, extrêmement décousue. Vêtu d'un boubou jaune et d'un chaise blanc, Al-Hassan a patiemment écouté le verdict sans manifester une quelconque émotion. Il va encore devoir attendre plusieurs semaines avant de connaître la sentence. Stéphanie Mopala et RFI.
Une patrouille de l'armée tunisienne visée par des tirs ce mercredi lors d'une opération de routine dans la zone tampon à la frontière avec la Libye. Des tirs d'origine encore inconnue selon le ministère de la Défense. Bilan, un mort dans les rangs de l'armée. Une enquête judiciaire a été ouverte pour élucider les circonstances de cet incident, précise le ministère. En République démocratique du Congo, au moins 2 soldats sud-africains de la SADC sont morts et 20 autres blessés dans l'Est. Mardi, l'une des bases de la force régionale a été visée par une attaque à Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, où des détonations d'armes lourdes ont été entendues. À Goma, le récit d'Héritier Baraka.
C'est un communiqué de l'armée sud-africaine publié ce mercredi qui a confirmé l'attaque de la base de Sake à l'ouest de la ville de Goma. Au cours de cet incident, des soldats sud-africains sont morts et 20 autres ont été blessés. L'armée sud-africaine ne dit rien à ce stade si les auteurs de cette attaque. Sake est considéré comme le dernier verrou pour atteindre la ville de Goma. L'armée congolaise, appuyée par les forces de Samir RDC, fait face dans cette zone aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, qui occupent des positions stratégiques sur les hauteurs de Sake. Mardi, des détonations d'armes lourdes ont été attendues par les habitants de la localité. Depuis l'arrivée en décembre 2023 des troupes de la Communauté de développement d'Afrique australe, au moins 5 militaires de cette force ont été tués et 13 blessés dans des combats qui ont eu lieu contre les rebelles du M23. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Et c'est dans ce contexte que la première ministre Judith Suminwa est arrivée aujourd'hui à Goma, capitale du Nord Kivu. C'est son premier déplacement dans cette province en proie aux violences depuis 30 ans. Une visite pour démontrer à la population locale, surtout aux femmes, qu'elles ne sont pas abandonnées. Ce déplacement est aussi le premier d'un haut responsable congolais depuis les élections de décembre 2023 dans cette ville de l'Est, ville sous la menace des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Augmentation des cas de torture au Congo-Brazzaville, c'est ce qu'indique dans un rapport le CAD, le Centre d'Action pour le Développement. Cette ONG congolaise de défense des droits humains observe que les cas de torture sont passés de 13 durant les 4 premiers mois de 2023 à 122 pendant la même période cette année. Bangui, la capitale centrafricaine, est la ville la plus chère d'Afrique pour les travailleurs étrangers. C'est la conclusion du rapport annuel de Mercer. Ce cabinet de conseil américain mesure le coût de la vie dans plus de 220 villes sur les 5 continents. Les précisions de Guillaume Fabry.
Logement, transport, nourriture, divertissement. Le cabinet Mercer se base sur un panier de plus de 200 biens de consommation pour mesurer l'évolution du coût de la vie. En Afrique, Bangui, Djibouti et N'Djamena occupent la tête du classement des villes les plus chères, comme l'année dernière. Mais l'augmentation des prix la plus marquée entre 2023 et 2024 concerne Accra, Addis Abeba et Le Caire. L'inflation en est la principale raison selon Mercer. À l'autre bout du spectre, Abuja et Lagos sont les villes les moins chères pour les travailleurs étrangers parmi toutes celles étudiées dans ce classement. Si le Nigeria connaît une inflation galopante, la valeur du Naira a chuté face au dollar, ce qui bénéficie aux travailleurs internationaux payés en devises étrangères. Le rapport du cabinet américain rappelle que l'instabilité géopolitique et les conflits locaux affectent directement le coût de la vie dans les grandes villes en générant de nouvelles dépenses pour le logement par exemple.
Guillaume Fabry. Et puis au Cameroun, dernière journée des championnats d'Afrique d'athlétisme à Douala. Une dernière journée avec une nouvelle médaille d'or pour Joseph Fanbulay qui a remporté le 200 mètres cet après-midi. Après celle acquise sur le 100 mètres samedi, le sprinter libérien s'offre donc un deuxième titre continental. Chez les dames, Jessica Gbayi s'est imposée devant sa compatriote Mabundu Koné en l'absence de Marie-Josée Talou. Ce doublé vient donc confirmer la bonne santé du sprint ivoirien. Envoyé spécial à Douala, Cédric De Oliveira.
Emmitouflé dans le drapeau de la Côte d'Ivoire, Jessica Gbayi a un sourire radieux. Vainqueur en 22 secondes et 84 centièmes, elle n'a pas tremblé pour remporter ce 200 mètres. La sprinteuse de 25 ans aurait préféré aller plus vite, mais elle se contentera amplement de ce premier titre de championne d'Afrique.
Oui, je suis contente. Je me suis dit que j'ai gagné. Même si je ne suis pas heureuse avec le chrono, les gens ne se rappellent jamais de chrono, mais ils se rappellent qu'il a gagné.
La voilà donc en or, tout comme ses illustres compatriotes et partenaires du relais. Marie-Josée Talou, 35 ans, rapidement forfait à Douala, a remporté 11 médailles continentales dans sa carrière, dont 3 titres. Muriel Aouré, 36 ans, a elle été 4 fois récompensée, dont 2 fois en or. Des grandes sœurs pour la nouvelle génération, symbolisées aussi par Mabundu Koné, 27 ans, qui après le bronze sur 100 mètres, s'est adjugée la médaille d'argent sur le 200 mètres.
Mine de rien, il y a des grandes championnes au niveau africain et monter sur le podium, pour moi, ça reste une belle expérience. La relève a assuré que nous sommes fiers de rejoindre nos grandes sœurs et puis on essaie de les rassurer pour leur dire que quand elles ne seront pas là, nous, on sera là pour assurer la suite.
Pour le moment, Koné, Gbayi, Aouré et Talou sont encore toutes sur le circuit. Une densité sur le sprint qui n'a pas d'équivalent en Afrique et qui donne quelques espoirs de médailles aux Jeux Olympiques de Paris. Cédric de Oliveira, Douala, RFI.
Il est 20h40 à Douala. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris où il est 20h40, 21h40.